dans le débat sur la légitimité de la Convention citoyenne pour le climat est apparue une controverse relative au sens qu'il fallait donner à l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et en particulier à une de ses phrases, la seconde, qui m'occupera beaucoup. Tous les citoyens ont droit de concourir, personnellement ou par leurs représentants, à sa formation, la formation de la loi, expression de la volonté générale. Une première lecture a été offerte par les tenants de la démocratie participative, et en particulier par Thierry Pech, coprésident de la Convention, citoyenne pour le climat, qui a pu interpréter de la manière que vous pouvez lire ici sur cette diapo l'article 6. En résumé, je ne vais pas le lire en entier, Thierry Pech estime que dans l'article 6, à la fois, là, il parle de la déclaration universelle, mais ça vaut pour la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, il y a le mot « personnellement », ont le droit de concourir personnellement ou par leurs représentants, et dit-il, ce personnellement peine à trouver son sens dans nos institutions, d'où l'utilité des conventions citoyennes. Du moins, ajoute-t-il, cet article signifie que les citoyens n'abandonnent jamais la totalité de leurs compétences par la désignation de leurs représentants. À cette lecture en a répondu une autre, celle de Gérard Grimbert, éminent spécialiste dans sa carrière du Parti socialiste, qui a dit que pas du tout, parce que, à ses yeux, dans l'article 6, il y a, faut pas commettre, dit-il, une confusion sur le sens de personnellement. Personnellement ne signifie pas, dit Gérard Grimbert, qui se retranche largement derrière l'article 3 de la Constitution et le principe de souveraineté nationale, ne signifie pas, personnellement, qu'un groupe réduit de citoyens peut revendiquer une quelconque légitimité politique en dehors des procédures électorales. Vous avez donc les tenants d'une certaine lecture de l'article 6, le mot personnellement a un sens et ce sens doit être en quelque sorte effectué ou activé, et puis les adversaires qui estiment que ce sens ne veut certainement pas dire qu'on peut retirer des compétences normatives ou partager des compétences normatives avec les représentants. Cela me semble donc justifier une enquête sur le sens pouvant être attribué à cette seconde phrase, celle que j'ai mise en rouge ici dans ma diapo, cette seconde phrase de l'article 6. Pour aller vite, il m'arrivera de dire l'article 6 à propos de cette seule seconde phrase, je vous prie de m'en excuser. Alors, mon plan suivra quatre points, c'est un peu mal fait, excusez-moi sur la diapo, mais c'était pour clarifier. Dans un premier temps, je vais essayer, à titre préliminaire, de me demander quelle est la place du citoyen dans la déclaration, cet individu isolé, cet atome du groupe politique qu'on appelle le citoyen. Ensuite, j'en viendrai à la question clé, c'est-à-dire ce mot personnellement qui se trouve dans l'article 6, concourir personnellement, qu'est-ce qu'on en fait? Ce qui en a été fait par notre tradition constitutionnelle et politique, c'est de le neutraliser, ou selon un mot de Pierre Avril, de l'escamoter. Je me demanderai ensuite, ce sera mon troisième temps, comment on peut sortir de cette situation de négation, d'escamotage, et je proposerai, je ne pense pas d'ailleurs que ça sera incompatible avec ce que vient de dire Olivier Jean-Jean, qu'une lecture peut être de réconcilier la souveraineté du citoyen et le fait qu'il puisse agir en qualité de représentant, d'où mon titre de citoyen représentant. Bien, dans un premier temps, ce que j'ai appelé, pour simplifier, la place du citoyen, qui est le citoyen dans la déclaration. Dans le processus déclaratoire de 1789, la chose qui me frappe et sur laquelle je voudrais insister, même si c'est une trivialité, c'est que le citoyen n'est pas le locuteur. Admettons que dans une déclaration, il y a un déclarant et quelque chose qui est déclaré. En 1789, le citoyen ou les citoyens ne sont pas les déclarants de la déclaration. Ce n'est pas eux, c'est pas ni lui ni eux qui déclarent. Alors tout au long de ce que je vais dire, il y aura toujours ce jeu compliqué entre tous les citoyens, c'est-à-dire la formule de l'article 6, et puis le citoyen. Je vais peut-être parfois jouer entre ces deux étagements. En réalité, j'y suis autorisé parce que l'on sait dans toute notre tradition de pensée politique moderne, c'est-à-dire que le citoyen est toujours un citoyen en citoyenneté, en collectivité de citoyens. C'est le moi commun dont parle Jean-Jacques Rousseau, ou c'est chez Hegel la phrase très célèbre où il dit que c'est le je qui est en même temps un nous et le nous qui est en même temps un je. Donc en réalité, le citoyen, c'est un kiwis qui est dans la kiwitas, c'est un citoyen qui est dans une cité. Bien, ni le citoyen ni les citoyens ne sont locuteurs. Ce n'est pas eux qui déclarent ce qui est déclaré. Qui est-ce qui déclare ce qui est déclaré dans la déclaration? C'est, nous dit le préambule, les représentants du peuple français, constitué en Assemblée nationale, et puis d'autre part, dans le deuxième paragraphe, cette Assemblée nationale elle-même. Donc il y a un jeu dans lequel, à partir du serment du jeu de paume, évidemment, c'est l'Assemblée nationale qui déclare les droits de l'homme et du citoyen. Ainsi, et je le répète, c'est peut-être trivial, mais à mon sens, ça ne l'est pas, je reste devant l'étonnement que m'inspire cette situation, l'auteur de la déclaration n'est pas ce syntagme qui est l'homme et citoyen, la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Ça n'est pas l'homme et citoyen, ce n'est pas non plus tous les hommes et citoyens, ça n'est même pas ce syntagme, c'est-à-dire cet ensemble de mots, ce groupe de morphèmes, dirait un linguiste, qui est à l'intérieur de l'article 6, c'est-à-dire tous les citoyens. C'est aucune de ces entités. Le citoyen est donc déclaré par un texte qui, si vous me pardonnez l'expression, n'est pas de lui. Il n'en est pas l'auteur. Le citoyen de la déclaration ne dit ni je, ni nous. Il ne dit même pas, comme disent les Américains, we the people. La Constitution américaine de 1787 commence par we the people, ce qui est un moment d'auto-effectuation du sujet collectif de l'autonomie politique. Ce moment d'auto-effectuation, il n'est pas là dans la France de 1789. Ça crée d'emblée un manque, une sorte d'effet de retranchement. On peut le mesurer au regard des attentes de la philosophie politique qu'on dit normative. Parce que pour synthétiser très simplement ce que dit la philosophie politique sur la question, le citoyen n'est pas citoyen s'il n'est pas sujet, c'est-à-dire s'il n'arrive pas à s'auto-constituer, s'il n'est pas le porteur et le déclarateur de sa propre autonomie. Il entend être autonome et il entend, pour être plus encore élaboré, que son autonomie individuelle se retranscrive dans une autonomie collective. Il faut qu'il y ait une synthèse des deux. Pour que les hommes soient libres, dit Montesquieu, je cite de mémoire, il faut qu'ils votent les lois encore, il faut qu'ils puissent adopter les lois encore. Donc on est là dans une situation où il faut que le sujet citoyen devienne citoyen-sujet, pour reprendre le titre d'un livre d'Étienne Balibar, et où en quelque sorte, en 1789, il y a un point d'arrêt qui est marqué, il y a une butte qui est posée. Deuxième observation toujours sur cette place du citoyen. Dans la déclaration, il n'y a pas un mais des citoyens. Et je dirais même dans l'article 6, il n'y a pas un mais des citoyens. Imaginons, alors j'ai eu la même image en tête qu'Olivier Jean-Jean, imaginons une pierre qui est lancée dans l'eau, elle tombe en un certain point, elle produit ensuite des ondes, des vaguelettes, de plus en plus excentriques. Ainsi, elle a référence aux citoyens dans la déclaration. On rencontre d'abord l'homme citoyen du titre, on rencontre ensuite différents alias dans le préambule, tous les membres du corps social, les réclamations des citoyens. On pourrait même dire qu'il y a une sorte de gradation dans le préambule, homme, ensuite membre du corps social, ensuite citoyen au pluriel. Le préambule annonce en quelque sorte donc l'article 6. Il contient la promesse que l'homme puisse se convertir en citoyen, être converti en citoyen, et que ce citoyen soit à part entière membre du corps social. Je vais faire de l'article 6 la disposition matricielle de la déclaration relative aux citoyens. Dans cette disposition matricielle, ce qu'on va relever, c'est qu'il y a, à mon avis, au moins deux citoyens. Je vais aller assez vite. Il y a le citoyen de notre seconde phrase, plutôt tous les citoyens, et parfois cette formulation précise, tous les citoyens devraient être gardés à l'esprit, qui ont donc le droit de concourir personnellement par leurs représentants à la formation de la loi slash volonté générale, du couple loi-volonté générale. Et puis il y a le citoyen de la troisième phrase, enfin, ce citoyen de la seconde phrase, pardon, il ressemble beaucoup au citoyen actif de 1791, celui qui, dit Sieyès, prend une part active dans la formation des pouvoirs publics. Tandis qu'on en a un autre, un peu plus en retrait, qui ne sera pas mon objet aujourd'hui, c'est le citoyen de la troisième phrase. C'est tous les citoyens égaux aux yeux de la loi sont également admissibles, etc., etc. Celui-là, il ressemble beaucoup au citoyen passif, cet être fellow, mais plus concret, qui dira le même Sieyès, je cite, est du corps social, sic, il est du corps social, il fait partie du corps social, sans pourtant détenir de droit de participation à la formation de la volonté générale. Je ne voudrais pas anticiper. L'article 6 ne connaît pas, ne reconnaît pas cette césure qui sera faite ensuite entre citoyens actifs et passifs. Dans l'article 6, c'est ce qui fait son intérêt matriciel ou générique. Précisément, on ne reconnaît que la figure pleine du citoyen, avant éventuellement des scissions dans l'intelligence qu'on peut avoir de la citoyenneté. Ce que propose tacitement, à mon sens, l'article 6, c'est de faire converger ces deux figures du citoyen. C'est une sorte d'horizon de perfectionnement. Horizon d'autant plus aisé que ça a été démontré par Patrice Guénifet, déjà classiquement. Le citoyen passif avait vocation à disparaître. Le citoyen passif était un citoyen actif en puissance une fois levés les obstacles qui s'opposaient à sa pleine participation à la vie civique. Ce n'était pas définitif, ce n'était pas essentiel. Donc l'article 6 comportait une double potentialité, un double horizon de perfectionnement. L'extension à venir du corps électoral, en résumé le suffrage universel, Et puis l'ouverture aux citoyens pris individuellement, ou alors, encore une fois, slash, si je puis dire, et où, ou alors à tous les citoyens de la possibilité de participer, excusez-moi, par lui-même à l'adoption de la loi. Cette seconde potentialité, elle est moins nette dans la phase 1789-1791, elle va être étouffée par les impératifs du système représentatif tel qu'il est alors conçu, mais c'est là, hein, si vous voulez, si on regarde le texte, c'est là, c'est difficile de dire que c'est pas là, même s'il y a des gens qui vont faire de très grands efforts en ce sens. L'extension du suffrage universel, elle a eu lieu, c'est l'histoire que raconte Pierre de Rosanvallon dans plusieurs de ses ouvrages. Le second de ces horizons de perfectionnement, lui, il a été fermé. Le citoyen ne s'est pas vu véritablement reconnaître ce droit effectif de concours à la formation de la loi. C'est ce que je vais maintenant examiner dans ma seconde partie, parce que c'est une histoire qui me semble à bien des égards intéressante. J'ai repris de Pierre Avril la formule de l'escamotage, le citoyen escamoté. Je vais commencer par un petit préalable. Qu'est-ce qu'on peut tirer de l'article? Une question que je me pose beaucoup, c'est qu'est-ce qu'on peut tirer de l'article 6? Je vais faire, et je ne m'en cache pas, une lecture un petit peu anhistorique de l'article 6. J'essaye d'y voir une conceptualisation avec un petit effet normatif au sens intellectuel du terme, c'est-à-dire ça dit les choses conceptuellement d'une manière dont on peut extraire une portée métajuridique, normative, au sens de peut-être de philosophie politique normative ou de métadroit, comme on dit. Paris-Ouest-Nanterre. Dans l'article 6, il me semble que la référence à tous les citoyens personnellement ne doit pas nécessairement être comprise comme une attribution de compétences. Plutôt, j'ai l'impression qu'il faut envisager cette formule comme touchant à la nature de la relation entre représentants et représentés. Et là, je vais me servir d'une étude très classique sur le concept de représentation, celle de la philosophe américaine Anna Pitkin, qui dit la chose suivante à propos du mot député, disons député. Elle dit: le mot député suggère que l'électorat détenait auparavant un office ou avait certaines fonctions officielles, et que ces fonctions ou cet office furent ensuite attribuées à leurs représentants. Donc, en quelque sorte, quand je dis représentant, j'implique logiquement représenté. Ça, encore une fois, c'est du trivial, mais une des finalités de la philosophie analytique ou de la réflexion sur le sens des mots, c'est de dire ce qui est trivial. Eh bien, on peut dire la même chose du mot représentant dans l'article 6. La formulation de l'article 6 pourrait se comprendre, en tout cas un des sens de la seconde phrase, c'est de dire qu'il y a une priorité logique du représenté. Son existence est présupposée dans le représentant. Donc, ce que fait l'article 6, c'est de le dire. Là où il y a représentant, on ne peut pas taire le représenté, et on va dire normativement que ce représenté, c'est le citoyen. Vous voyez? En gros, on crée un rapport, une chaîne logique en disant: il y a des représentants, donc déjà le régime représentatif qui va être exprimé dans la Constitution de 1791 tel quel, il est dit par le simple mot représentant, de même que la République en 1873 est dite par le mot président de la République. Là, quand on dit représentant, il y a déjà toute la représentation qui se déploie conceptuellement, mais avec un lien logique avec ce qui est représenté. Ce qui est représenté, c'est tous les citoyens. Et à cause de l'affinité, de l'impossibilité de séparer tous les citoyens et le citoyen, ce je qui est un nous et ce nous qui est un je, on dit déjà le citoyen quand on dit tous les citoyens. Donc on pourrait réécrire l'article 6 en disant: le représentant est représentant des citoyens. On peut faire une petite opération logique, mathématiquement, il n'y a pas de trucage. Ce n'est pas nécessairement seulement le citoyen. Et là où la position des adversaires de la démocratie participative aujourd'hui, ils ont un point fort, c'est de dire qu'il y a la souveraineté nationale et que le représentant, il est aussi représentant de la souveraineté nationale. Ça, c'est pas discutable parce qu'il faut marier l'article 6 avec les dispositions dans la Déclaration, dans la Constitution de 1958 sur la souveraineté nationale. Mais on peut pas non plus refuser sa place aux citoyens. La concaténation dont je parlais tout à l'heure, la priorité logique du citoyen, elle est là et elle est dite en ces termes dans l'article 6. Et cette priorité logique du citoyen représenté sur le représentant, il faut s'imaginer un monde où il était là avant, c'est ça que dit Anna Pitkin, elle revêt un sens politique. On se devait d'admettre, en raison du principe de la souveraineté nationale, que l'État était un État de citoyens, c'est-à-dire un État où les citoyens étaient, à un titre ou à un autre, des détenteurs du pouvoir, ou au moins des participants à l'exercice du pouvoir. Alors, admettons, il y avait cette priorité logique dont je dis que c'était aussi une nécessité politique. Elle appelait quelque chose, ça créait une sorte de vide à combler. qui une traduction constitutionnelle, qui une traduction, une traduction, excusez-moi, légale dans le droit positif. Elle l'appelait, mais elle ne l'effectue pas. La déclaration ne nous dit pas comment il va falloir s'y prendre. Elle joue un rôle d'invocation d'une positivité future, d'annonce d'institutions politiques à venir. Mais c'est là que ça bloque, c'est là que quelque chose fait entrave. Priorité logique ne veut pas dire priorité pragmatique ou historique, c'est même l'inverse qui se présente. On va admettre que le citoyen est un concept antécédent du représentant, parce que l'article 6 nous le dit en ces termes. La formule mathématique de l'article 6 met ces données-là en relation, mais concept antécédent ne veut pas dire priorité concrète, et c'est même plutôt le contraire qui se produit. Nous le savons, et les discussions contemporaines que j'évoquais nous le rappellent, non seulement la promesse de l'article 6 n'a pas été tenue, mais encore nombreux sont celles et ceux qui se refusent à y voir une promesse. Alors, il y a tout un tas de manières de faire les récits de l'escamotage du citoyen. On peut le raconter historiquement, on peut le raconter de nombreuses manières différentes. Je l'ai fait pour ma part en traversant les écrits de Carré de Malberg. Parce que chez lui, il n'est pas le premier à le faire, mais chez lui, l'opération est réalisée au grand jour. Or, chez Carré de Malberg, ce qui est frappant, c'est que l'escamotage n'est pas seulement constitutionnel, il est dans les mots. Il est dans le fait qu'il ne veut pas dire personnellement. C'est un jeu de ni oui ni non, mais simplement, Carré de Malberg ne joue pas à ni oui ni non, il joue à ni personnellement ni personnellement. Et c'est extrêmement frappant. Je vais aller vite parce que, évidemment, mon temps passe rapidement, mais dans les diapos que j'ai faites là, il y a à peu près tout ce que j'ai pu repérer rapidement de passages sur l'article 6 chez Carré de Malberg. Alors, je vais aller vite, tant dans la contribution. Donc 1920-1922, que dans l'article de 1931 sur le référendum, que dans la loi expression de la volonté générale, donc chez le Carré de Malberg classique et chez le Carré de Malberg tardif du référendum, et voilà. Jamais personnellement. C'est-à-dire, le mot personnellement est toujours coupé au montage. C'est très frappant. Et alors, je vais simplement, comment dirais-je, le montrer avec un passage que je vais essayer de retrouver. Excusez-moi si je ne retrouve pas la bonne diapo, mais je vais vous le lire. Il y a un passage très frappant dans la contribution où Carré de Malberg non seulement renie le mot personnellement en ne l'employant pas, comme si c'était un mot imprononçable, mais encore réécrit l'article 6 sous la forme d'une inversion. C'est-à-dire, ce qu'il dit, c'est que l'article 6, il énonce que la signification de l'article 6, c'est que la souveraineté n'appartient pas personnellement à chaque citoyen. Pardonnez-moi l'expression, mais il faut le faire. Il faut vraiment le faire. Même le Conseil constitutionnel, quand il réécrit les dispositions de la Constitution, ne fait pas mieux. Et il ajoute, c'est tellement vrai que si chacun des citoyens peut se dire souverain, c'est seulement en tant que partie intégrante et inséparable du tout. C'est assez frappant. Le mot personnellement est renversé contre notre citoyen de l'article 6. Bien. Alors ensuite, je vais passer sur la construction normative que produit Carré de Malberg, qu'on connaît tous, c'est-à-dire le fait que il discute essentiellement l'article 6 dans sa discussion, dans la contribution, de la fonction électorale. Donc il met le citoyen comme citoyen électeur. Voilà. Il fait prévaloir la souveraineté nationale, on le sait. Quand Carré de Malberg nous dit qu'il y a un sujet propre ou un sujet unique de la souveraineté, ce sujet propre ou sujet unique, c'est bien sûr pas le citoyen, vous avez compris. C'est, dit-il, la nation et elle seule. Donc s'il y a un sujet, s'il y a pour ce sujet de l'autonomie politique chez Carré de Malberg, c'est la nation. Et le sujet individuel de l'autonomie politique est nié. En tout cas, l'individu sujet, le citoyen sujet de Balibar, chez Carré de Malberg, il n'est pas sur la photo. Il a été gommé sur Photoshop. Et le sujet, c'est un sujet collectif. Bien, je passe sur le quatrième et dernier procédé, c'est-à-dire l'opposition comme étant incompatible chez Carré de Malberg de la démocratie et du régime représentatif. C'est soit l'un, soit l'autre. Et là, je pense à une très remarquable observation de mon directeur de thèse dans les enseignements qu'il avait dispensés devant moi, les commentaires qu'il avait dispensés devant moi de la contribution à l'intérêt général de l'État tous les mercredis soirs à 18 h au café Le Soufflot, où il disait très systématiquement et très véritablement, Carré de Malberg vous donne toujours à penser qu'il n'y a qu'une alternative entre deux trucs et il y en a toujours un troisième. C'est très profondément vrai. Carré de Malberg, c'est quelqu'un qui vous enferme dans des fausses alternatives du genre démocratie contre régime représentatif. Or, il y a plein d'autres choses. Il y a une prolifération de tierces options dont Carré de Malberg ne vous parle jamais. Bon. Voilà, ça c'est fait. Alors, J'admire beaucoup Karen Malberg, c'est un immense auteur, mais précisément parce que c'est un immense auteur, c'est un pilier, c'est quelqu'un qu'on peut prendre comme un point de repère. C'est un moment de l'esprit qui s'accomplit, Karen Malberg. Bien, et même quand il évolue vers la défense du référendum, la seule option, c'est soit, dit-il, régime parlementaire, soit référendum. Il n'y a pas de tierce option. Alors, comment est-ce qu'on devient citoyen? C'est ma troisième partie, et je prends ce terme, je suis un grand plagiaire, hein, je prends chez Étienne Balibar. Comment on surmonte l'escamotage? Est-ce que la mise à l'écart du citoyen doit être complète? Est-ce qu'on peut remiser la seconde phrase de l'article 6 dans cet enfer de nos bibliothèques de dispositions constitutionnelles, ce lieu terrible où l'on rangerait les formules qu'il faut tenir pour non écrites, comme une clause contractuelle invalidée par un juge judiciaire? Faut-il du moins ranger notre seconde phrase au nombre de celles incapables de mise en œuvre concrète, même si on ne les nie pas, celles auxquelles on ne peut pas donner de réalisation institutionnelle et qui restent des vœux pieux, ou peut-être même, comme chez Grotius, des espérances impies, des affirmations impies? Je ne le pense pas, et je vais dire une chose, c'est que je tiens à le dire, je suis ni guelf ni gibelin, je suis militant d'absolument rien, et je me fous éperdument de tout. Et donc, je n'ai pas d'enjeu. Je ne suis pas en train de défendre une cause politique, je ne me fous pas de tout. Par exemple, j'ai très envie de faire un bon dîner, mais je préfère vivre dans une démocratie libérale et je suis en gros, je suis comme Francis Fukuyama, je pense qu'il faut aller vers le Danemark. C'est-à-dire, tout ça me paraît bien. Si vous voyez ce que je veux dire. Fukuyama dit, il y a un bon système, c'est la démocratie libérale, on va appeler ça le Danemark. Moi, je pense qu'il faut tous aller au Danemark. Mais peu importe ce que j'en pense. Je veux simplement tirer les conséquences et les implications d'une disposition qui reste dans notre bloc de constitutionnalité et dont je m'étonne qu'on refuse de voir certains bouts. C'est tout. C'est tout ce que je fais là. C'est purement une sorte de lecture naïve d'une disposition que j'avais jamais regardée de très près avant de préparer cette intervention. Alors moi, je vais me poser une question très simple, c'est la question de l'effet utile. Qu'est-ce qu'on peut tirer de notre article 6? Et là, je parlais de Paris-Ouest-Nanterre tout à l'heure, je vais faire de Michel Tropper. Je vais dire qu'il y a un principe négatif et un principe positif là-dedans, comme chez Tropper, il y a un principe négatif et un principe positif de séparation des pouvoirs. Ça, mes collègues nantérois seront contents. Bien. Principe négatif. La seconde phrase de l'article 6, si elle effectue quelque chose, c'est de faire échec à ce que le principe représentatif, pardon, soit compris de manière absolue. C'est-à-dire que, certes, on peut admettre qu'en principe, c'est les représentants qui font la loi, parce que d'autres dispositions nous le disent, mais quoi que disent les constitutions positives, et qu'elles prévoient ou non des mécanismes permettant la participation individuelle du citoyen, ce dernier conserve le droit de concourir à la formation de la loi. Et pour rester dans le méta, je pourrais dire, après qui vous savez, au moins le droit au droit. Il y a au moins un droit au droit, c'est-à-dire on ne peut pas dire vous n'avez pas le droit. La position de Madame Schnapper, par exemple, ou de Gérard Grimbert, elle est fantastique de ce point de vue-là, au sens de la littérature fantastique. Ça, je ne comprends pas comment on peut dire ça et faire ça. Je ne comprends pas comment on neutralise un mot comme ça dans une disposition constitutionnelle. C'est du Paul Reynaud en 1945-46. La nation est ici présente au Palais Bourbon, elle n'est nulle part ailleurs. C'est très impressionnant. 62, excusez-moi, 62. Voilà. Bien. Donc moi je parle de principes négatifs qu'on pourrait formuler, j'aime bien à écrire. Il n'est pas permis aux représentants de s'approprier l'intégralité, aux représentants au sens de l'article 6, comprenons-nous, de s'approprier l'intégralité des compétences normatives de l'État. Peut-être que ce n'est pas compétence normative, parce que je ne suis pas sûr que l'article 6 renvoie à des compétences normatives, mais un pouvoir d'action. Un droit de participation, comme disent les philosophes politiques, de participation au pouvoir. Ça, c'est là. On peut ne pas aimer ça, on peut vouloir réécrire la déclaration de 1789, mais ça serait se mentir et mentir aux autres que de dire que c'est pas là. C'est tout ce que je prétends dire. Principe positif, c'est plus compliqué. C'est comme pour la séparation des pouvoirs de Michel Tropper, parce qu'en réalité, réaliser positivement une injonction de ce type, c'est pas la réaliser en une seule manière. Il y a plein de séparations des pouvoirs possibles, il y a plein de réalisations possibles. Du principe positif de participation du citoyen. Comment faire pour que le principe représentatif ne soit pas incompatible avec l'existence de citoyens qui ne sont pas purement passifs, mais qui, comme l'exige, à mon sens, licitement la pensée démocratique, sont des sujets de leur propre autonomie? Parce qu'autrement, il n'est pas possible de les appeler des citoyens. Vous comprenez, quand on dit citoyen après 1789, ce n'est pas comme quand on dit citoyen sous Louis XIV. Ça veut dire qu'on est le sujet de sa propre autonomie, qu'on n'est pas seulement assujetti, qu'on est aussi acteur de sa propre autonomie. Autrement, on ne peut pas employer le mot. Autrement, il faut trouver autre chose. J'ajouterais, mais en passant simplement, que la technique du référendum, qui est souvent envisagée comme solution à ce problème, n'est peut-être pas l'essentiel. C'est peut-être pas la chose qu'il faudrait cerner. Et c'est là que je fais un petit jeu sur la formule de l'article 6, c'est le citoyen derrière tous les citoyens. C'est le citoyen au singulier. Qu'est-ce qu'on fait avec lui ou avec elle? Ça, c'est à mon avis la très grande question de notre société hyper individualiste, atomisée, avec en plus un moment où on a surmonté le problème épistémique qui était celui de Sieyès, c'est que beaucoup de gens en savent autant que beaucoup d'autres gens. Et que il me paraît impossible de dire qu'un député ou un sénateur ou une sénatrice ou une députée en savent plus qu'un citoyen lambda à cause de la croissance du niveau d'éducation et puis de peut-être d'autres choses que je passerai par courtoisie. Je ne pense pas que les débats au Parlement, ça soit formidable et je ne pense pas que ça soit moins bien que les débats dans la société civile. Les bons débats sur le nucléaire, sur les produits phytosanitaires, sur le climat, etc., c'est entre les ONG. C'est entre les associations, c'est entre les experts scientifiques. Et plutôt au Parlement, les discussions sont de moindre qualité technique et intellectuelle. Je ne vous répéterai pas que j'ai dit ça. Bien. Alors qu'est-ce qu'on fait? Si le citoyen concourt à la formation de la loi, comme le dit l'article 6, est-ce que par hasard, ça ne ferait pas de lui un représentant? Ou d'elle, hein. Ça ne signifie pas. D'ailleurs, pas de manière évidente, je le dis en passant, qu'un choix de principe doit être effectué dans le sens de la démocratie pure, ou de la dite pure, ou dite directe, exactement pour les raisons qu'a dit magnifiquement Olivier Jean-Jean. J'ai pas besoin d'y revenir, c'est un vocabulaire qui est plus gênant qu'autre chose. Bon, il y a quelque chose de gênant pour moi, c'est que l'article 6 dit ou, hein, ou personnellement ou par leurs représentants. Est-ce que ce ou est exclusif? Est-ce que A est exclusif de B et B exclusif de A? Bon, c'est évidemment pas idéal pour la démonstration que je vous rapporte. Ne nous mentons pas. Mais je ne le pense pas et je ne le pense pas pour deux raisons. D'abord parce qu'il y a la reconnaissance d'un droit personnel. On ne nous parle pas dans l'article 6 de référendum, c'est le côté matriciel, c'est qu'on ne nous dit pas les voies et moyens de la réalisation positive. Il n'y a pas les assemblées primaires de la Constitution de 1791 ou du projet Girondin, il n'y a pas le référendum, n'est visé matriciellement que la participation personnelle. Je place beaucoup de charges dans l'adverbe personnellement, il concourt personnellement. L'homme citoyen de la Déclaration est porteur de droit, c'est son autonomie individuelle. Il est aussi porteur d'une faculté de participation à la formation du couple loi-volonté générale, celui qui est dans la première phrase de l'article 6. Deuxième raison, s'ouvre la possibilité, en tout cas se pose la question, d'une coexistence concrète entre le citoyen et les représentants élus. Alors voilà, ça c'est un problème sérieux. Le rapport représentant-représenté est un rapport de coexistence dans l'article 6. Ils sont dans la même phrase. Est-ce qu'ils peuvent être dans le même monde ou est-ce qu'ils peuvent être au même endroit en même temps? C'est pas simple du tout, c'est le problème des. Si, enfin voilà, j'y reviendrai. Qu'est-ce que c'est qu'un monde? Un monde unique, les philosophes disent, c'est un plan d'immanence. Ce que nous dit l'article 6, c'est que nos citoyens et nos représentants sont dans le même plan d'immanence. Quand Dieu gouverne des trucs politiquement dans un monde, Dieu n'est pas sur le plan d'immanence des hommes. La volonté de Dieu peut avoir des effets politiques, comme chez Locke, mais c'est pas le plan. Dieu n'est jamais représenté ou Dieu ne représente pas, parce qu'il n'est pas dans le même plan d'immanence que les hommes. Sauf s'il y a incarnation, mais c'est un peu un autre débat. Mais le monde dans lequel nous sommes tous, il peut avoir des compartiments, des cloisonnements, il peut y avoir des absences et des présences, il peut y avoir des gens ici et des gens en ligne, il peut y avoir un ici et un là-bas. On pourrait faire la comparaison avec une demeure unique, un bâtiment unique composé de plusieurs pièces. Ils sont dans le même monde, notre représentant et notre représenté, est-ce qu'ils peuvent se retrouver dans la même pièce? C'est pas simple du tout, c'est le problème des journées révolutionnaires, où il y a les sections parisiennes qui viennent frapper à la porte violemment des assemblées de la Révolution, et puis qui viennent parfois casser la figure aux élus, des gilets jaunes qui pénètrent, voilà, etc. Sur les bases posées par Karen Malberg, c'est même pas possible, parce qu'il opère le cloisonnement. Quand il dit le citoyen est seulement un électeur, il empêche le citoyen d'être présent dans la formation de la volonté politique. Je soutiens pour ma part, je vais aller vite, que l'article 6 ne permet pas ce confinement, cette réduction. Il nous impose de penser, même si ça tend asymptotiquement vers la contradiction, que le citoyen et le représentant doivent cohabiter dans le dispositif constitutionnel qui sera le nôtre. L'escamotage, autrement dit, ne peut pas être complet. La solution pourrait être la suivante, et c'est le titre de mon intervention et ma quatrième et dernière partie. Et c'est un problème en soi, je ne vous le livre pas comme un produit fini, c'est le citoyen représentant. Il ne me semble pas possible de considérer comme allant de soi l'opposition entre le principe représentatif au sens courant du terme et la formule tous les citoyens personnellement. Admettons, et là ça ouvre les questions ouvertes par Cécile Barque ce matin, admettons qu'existe ou puisse être pensé ou élaboré un dispositif institutionnel quelconque, lambda, x, y, z, permettant d'associer tous les citoyens personnellement à la législation. Ce procédé donnerait une réalité concrète à ce droit. Il permettrait de rapprocher l'inexpugnable citoyen souverain, porteur d'un droit de souveraineté, du citoyen représentant, et de faire qu'il n'y ait pas de contradiction entre les deux. Je vois très bien le risque de contradiction. Tout ce que j'ai appris en droit constitutionnel me porterait à penser qu'à ce stade, il y a quelque chose qui ne marche pas. Je n'en suis pas si certain, et j'en suis de moins en moins certain. Je pense qu'en réalité, le droit de la participation à la souveraineté inhérente aux citoyens, qui fait au passage qu'on ne peut absolument pas, comme ça a été dit dans le débat sur la Convention citoyenne, dire les citoyens, c'est comme des experts dans les comités d'experts. Je pense que c'est absolument impossible, le citoyen. Il est, comme dit saint Paul, je suis un citoyen romain, comme Maïakovski quand il dit je suis un citoyen de l'Union soviétique, il a son prestige de citoyen qui est d'être parti du souverain. Il n'est pas juste expert de ceci ou de cela. Il est expert de rien en réalité. Mais il est citoyen et partant de là, il participe à la sphère politique. Il a un droit de participation. Il a mon principe positif de tout à l'heure. Il me semble possible d'envisager que la participation du citoyen à la souveraineté, ce droit de concourir à la formation de la loi que lui attribue l'article 6, ne se ramène pas à la détention d'un titre de souveraineté, mais impose au contraire aussi une forme de participation à l'activité politique. Et pour le dire simplement, il ne faudrait pas pour les défenseurs du gouvernement représentatif classique ou pur, enfin, ils devraient être conscients du noyau rousseauiste dans leur pensée. C'est-à-dire, on nous dit en réalité, la souveraineté, c'est tout ou rien. Il y a le souverain et puis il y a ses représentants et puis il y a ceux qui gouvernent. Quand on nous dit ça, on s'imagine que la souveraineté, c'est quelque chose de moniste ou de monolithique et que par conséquent, soit vous êtes souverain, soit vous êtes représentant. Je ne pense pas que ça fonctionne comme ça. Je ne pense pas qu'il y ait d'opposition entre souveraineté nationale et possibilité pour le citoyen d'être un citoyen représentant. La preuve que j'en voudrais ou que j'en aurais voulu, plus beaucoup de temps, donc je vais essayer d'aller vite, c'est que je pense que cette réflexion, la réflexion sur cette question-là ne part pas de rien. Et c'est là que j'aurais voulu, avec un peu plus de temps, convoquer Condorcet, ce que j'appellerais le moment Condorcet. Après le 10 août 1792, Condorcet réfléchit de très près à la question de ce qu'on doit faire avec les sections parisiennes et ce qu'on doit faire avec la violence politique révolutionnaire. Parce que lui, il espère avoir la souveraineté nationale sans avoir la violence qui va avec et l'irrationalité que ça accompagne. Donc, il y a différents textes de Condorcet très intéressants là-dessus, mais tout simplement, celui dont je me sers, c'est la présentation qu'il fait en février, le 15 février 1793 devant la Convention du projet Girondin. Et dans ce texte-là, qui est très remarquable, on voit émerger la figure du citoyen représentant, celui qui, dans les assemblées primaires du projet Girondin, une cascade d'assemblées primaires, assemblées primaires de communes, réunion des assemblées primaires communales et ensuite des assemblées primaires départementales qui elles-mêmes font monter comment dirais-je, un certain nombre de projets, de manifestations de volonté au corps législatif. Quand le citoyen vient en assemblée primaire, dit Condorcet, il vote non pas pour lui seul, mais pour la nation entière. Autrement dit, il est représentant. C'est-à-dire, il vient voter des motions en assemblée primaire qui vont ensuite, par un processus de filtrage, monter jusqu'au corps législatif pour y être voté ou pas voté d'ailleurs. Alors, ce citoyen, dit Condorcet, détient un droit de souveraineté, il participe à l'expression de la souveraineté de la nation, et là où on voit que Condorcet a parfaitement vu le problème, c'est qu'il ajoute même sous une constitution représentative. Voilà, même sous une constitution représentative. Pourquoi? Parce que, dit-il, ce citoyen doit détenir un exercice immédiat qui rappellera à tous les citoyens l'existence et la réalité de la souveraineté nationale. Donc, il y a exercice immédiat. Alors, je vais passer très vite, mais si on regarde les textes préparatoires de l'article 6 de la Déclaration, dans beaucoup d'entre eux, il y avait une autre formule que celle qu'on a eue finalement, concourir personnellement par leurs représentants, c'était concourir médiatement ou immédiatement. Ça se trouve dans trois ou quatre au minimum des textes de ce type que j'ai pu repérer. Médiatement ou immédiatement. Ben, chez Condorcet, on retrouve cette formulation-là. Bien, très rapidement, parce que je commence à être hors du temps qui m'était alloué, Il y a des défauts à la solution de Condorcet. Je n'y adhère pas. Je dis juste qu'il y a là il y a là la démonstration possible qu'il n'y a pas de contradiction entre citoyen souverain et citoyen représentant. Tout ça a été balayé à cause évidemment du 2 juin 1793, et c'est passé à la trappe. Mais il y avait des limites intrinsèques. La complexité, mais ça, c'est pas l'essentiel. Ce que j'appellerais la mouvance Turgot-Condorcet, c'est-à-dire une politique de la raison, le citoyen, il compte pas tant que ça, ni pour Turgot et surtout pas pour Condorcet, parce que la loi est une œuvre de raison, c'est un acte rationnel. Donc on identifie en soi la raison. Le citoyen, il est un peu zappé. Enfin, je veux dire, il est un peu instrumentalisé. Il est l'agent d'une raison objective. Bon, c'est un premier problème, parce que le citoyen contemporain, notre citoyen à nous, il veut être tout ce qui lui plaît. Il veut aussi ne pas être l'agent de la raison. Il veut aussi que sa subjectivité, dont il n'a pas à démontrer qu'elle est rationnelle, fasse valoir ses droits dans le débat politique. Et puis, il y a une ambiguïté, une difficulté chez Condorcet, sur laquelle je rentre pas, c'est que à la fois il nous dit que c'est important qu'il y ait de la délibération et que le citoyen participe à une délibération, mais il ne veut pas que cette délibération se fasse dans les assemblées primaires. Il les renvoie à ce qu'il appelle les cercles privés. Il imagine que les citoyens vont discuter entre eux, c'est un peu du Habermas avant la lettre, on va discuter entre nous au café ou je sais pas où, de la bonne loi, on va aller en assemblée primaire, on va répondre à une question précise et voter une motion très spécifiée qui pourra monter devant la cascade, remonter, comme le saumon bien connu, la cascade des assemblées. Mais il a une gêne vis-à-vis d'assemblées primaires de citoyens qui réellement délibèrent. Il voudrait que la délibération finale, ça soit devant le corps législatif. Et puis, je termine, mais il limite assez fortement le pouvoir de ces assemblées de citoyens. Ce n'est pas mon propos ici, je ne suis pas néo-condorcettien. Je pense que le moment Condorcet conserve son importance comme démonstration de la non-contradiction entre citoyens souverains et citoyens représentants, en tout cas de possibilité de non-contradiction. Ça démontre sur le principe la possibilité de faire coexister toutes les composantes de cette seconde phrase de l'article 6 de laquelle je vous ai entretenu. Et on voit pourquoi, et ça sera ma formule de conclusion, on voit pourquoi je suis tenté de penser, je me suis même récemment permis de dire, que Condorcet était le véritable précurseur, l'ancêtre de la Convention citoyenne pour le climat. Disons du mode de la philosophie politique normative qui a été à l'œuvre dans la Convention citoyenne, qui n'est pas, il faut bien comprendre ce que c'est pas un truc de la, comment dirais-je, de démocratie radicale, même s'il y avait des gens qui avaient ces positions-là dans la Convention. La Convention, c'est un certain nombre de gens qui étaient pour, et puis les gens qui ont orchestré la chose, qui ont mis la chose en musique. Moi, j'ai tendance à penser, même si ça leur est pas venu une seconde à l'esprit, que tout ça est assez néo-condorcettien ou disons néo-girondin. Et je pense même que dans l'univers NUPES qui est désormais le nôtre, c'est une insulte. Si on dit à quelqu'un, vous êtes un girondin, un jour j'ai dit à Bastien François, vous êtes un modéré, il n'était pas content, Bastien François. Dire à quelqu'un, vous êtes un girondin aujourd'hui, ça flattera modérément le destinataire. Mais je pense qu'il y a une coloration néo-girondine de certains projets de la démocratie participative et que ça nous montre un point de césure de la gauche d'aujourd'hui, parce que je pense que face à ça, par exemple, chez la France insoumise, il y a des projets qui sont nettement néo-jacobins. Je vous remercie.